C'est pas sorcière. 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 C'est pas sorcière.
Coucou.
Moi c'est Marion.
Et moi c'est Louise.
Bienvenue dans C'est pas sorcière.
Le podcast qui explore l'histoire de la sorcellerie
et les pratiques ésotériques. Coucou. C'était le deuxième coup.
Tu recommences depuis le début. Coucou. Moi, c'est Louise.
Coucou Louise, on ne s'est pas du tout parlé juste avant.
Non, c'est la première fois qu'on se parle depuis l'enregistrement du dernier épisode.
Depuis un mois.
On est obligé de faire un podcast, sinon on ne peut pas se parler.
Alors, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Louise?
Eh bien, moi, j'ai été inspirée par... Alors, retour dans le passé. Il n'y a pas longtemps, c'était la nuit des musées. Je ne sais pas si tu connais.
Si.
Et donc, je suis allée dans les musées de ma ville. La nuit, c'était cool, il y avait plein d'activités, et entre autres, au musée des Beaux-Arts, il y avait une activité chasse de Horcrux. Et en fait, tu devais retrouver les Horcrux de Harry Potter, mais dans les œuvres d'art, et du coup, ils te faisaient aussi de la médiation culturelle, pour genre la symbolique, par exemple, de l'épée, la symbolique de la coupe, des trucs comme ça.
Mais c'est le truc le plus génial du monde.
C'était génial.
On précise que c'est au musée des Beaux-Arts de Nancy.
Oui. Très bonne idée. Donc, il y avait plein de Horcrux à trouver. Et l'un d'entre eux, c'était le diadème de Serre d'Aigle.
Oh.
Qu'il fallait retrouver dans une des œuvres d'art. Et l'œuvre d'art sur laquelle il y avait une personne qui avait un diadème, c'était une œuvre d'art qui représentait Médée.
Mais trop bien.
Et du coup, je me suis dit, ah, mais tiens, j'ai toujours pas fait d'épisode sur Médée. Et ben, c'est parti.
Est-ce que ça tombait pas pile poil?
Pile poil, exactement. Voilà, c'était l'inspiration derrière la chronique qui va venir. Et toi, tu vas faire quoi?
Eh bien moi, Louise, une fois n'est pas coutume, je vais te parler d'une fête païenne.
Oui.
Ouais, parce qu'il y en a plein.
Et du coup, t'as plein d'idées.
Et du coup, ça va me permettre de vous parler de la magie des éléments. J'ai décidé aussi qu'on allait faire une petite chronique par élément. Et là, du coup, j'ai lié les deux. Parce que c'est une fête qui est liée à un élément particulier. Voilà. Mmh. Je ne spoil pas, mais un
teasing.
Petit peu quand même.
Écoutez jusqu'à la...
Je cite. Stay tuned.
Eh ben, c'est parti.
C'est Medley Time.
C'est Medley Time.
Medley Time.
Je vous avais déjà parlé de Hécate. Et quand j'avais fait ma chronique sur Hécate, je vous avais dit que dire que c'est une sorcière, c'est un anachronisme. Mais ce n'est pas non plus une aberration, puisqu'elle fait partie des figures mythologiques qui ont influencé la figure de sorcière comme on la connaît aujourd'hui. Donc, s'il n'y avait pas de sorcière à l'époque, on peut quand même utiliser ces figures mythologiques pour parler et comprendre la sorcellerie d'aujourd'hui.
Ouais.
Et donc, aujourd'hui, je vais parler de Médée, une autre magicienne de la mythologie grecque.
Ouais.
Donc Médée, ça serait la fille d'une océanide, Idie. Les océanides, c'est des nymphes de l'eau.
D'accord, tu fais bien de le préciser.
Donc sa maman, c'est plus ou moins... Ouais, parce que j'ai cherché. Il t'explique ça, genre c'est évident. Tu connais tout de la mythologie.
Une nymphe de l'eau, mais salée, quoi.
Voilà. C'est plus ou moins l'ancêtre d'une sirène, en gros.
Trop classe.
Et ce qui est intéressant, c'est que le papa de Médée... Ça serait le roi de Colchide. Alors Colchide, j'ai cherché aussi, c'est un ancien royaume qui est situé au niveau de l'actuelle Géorgie.
Ok.
Et donc, ce roi de Colchide, qui s'appelle Été, ce n'est autre que le frère de Circé, une autre magicienne.
Ouh, mais ils sont tous potes.
Voilà.
C'est fou, hein. Le monde mythologique est petit.
Et en plus, le père de Circé et de Été, c'est Hélios, le dieu du soleil.
Donc,
Médée, elle a du soleil dans le sang.
Ah, oh, c'est beau.
Voilà, donc ça, c'était la partie généalogie. De toute façon, la partie généalogie dans la mythologie, c'est souvent un peu le bazar. Et en plus, tous les auteurs ne sont pas d'accord. Alors...
Ouais. C'est souvent immonde en termes d'inceste et de... En fait, c'est impossible à tracer correctement la généalogie des dieux.
Enfin, selon les auteurs, ils ne vont pas donner, par exemple, les mêmes parents ou les choses comme ça. Donc, ouais. Là, ce que j'ai dit, c'est ce qui est le plus souvent répandu. Mais j'ai vu qu'il y avait aussi des versions qui disaient que Médée, c'était la fille de Hécate. Donc... Chacun fait ce qu'il veut.
Ah oui. Bon, c'est des traditions orales. Hein. Faut pas chercher l'exactitude, on va dire.
Est-ce que tu connais un peu des choses sur la vie de Médée?
Non.
Tu connais rien sur elle?
Non, non. Je sais qu'il y a eu des livres sur elle et des mythes sur elle, mais je connais quasiment rien sur elle.
Ah.
Je sais juste que c'est une magicienne.
Ok.
Mais tu m'en as déjà parlé.
Possible. Oui.
Je la confonds avec Circé, je crois aussi.
Ou possible. Je crois que j'avais parlé d'elle dans l'épisode sur la bibliothèque parce que j'ai une pièce de théâtre
Ah oui,
tirée de
voilà.
mes dés.
Voilà, et donc je l'ai aussi, je ne l'ai jamais lu.
J'espère que ça va te donner envie. Donc maintenant on a fait la généalogie, donc on va aborder la partie meurtre et cavale, puisque avec Médée, on a affaire à
Ouais.
une serial killers.
Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer.
Tout commence alors que Médée est bien tranquille en Colchide avec son papa, et va débarquer un groupe de héros qui se font appeler les Argonautes.
Ah ouais,
Donc,
cela.
ils ont un petit nom de club et tout, trop classe.
Ça pète de ouf.
Ils sont menés par un mec qui s'appelle Jason.
Jason, pour les anglophiles.
Jason, s'il vient en Colchide, c'est pour récupérer la toison d'or. Alors la toison d'or, c'est bien la mythologie parce qu'à chaque fois, il te cite un truc, t'es obligé de faire une recherche sur c'est quoi ce truc. La toison d'or, c'est une peau de bélier sacrée. Et si Jason la recherche, c'est parce que s'il la récupère, il pourra récupérer le trône qui lui revient dans son pays parce qu'il se
Ah,
l'est
c'est
fait
pour
piquer
ça
par
qu'il
son
a voulu la
oncle.
toison
C'est
d'or.
ballot.
Mais c'est fou, ça fait des années que je me dis, enfin,
Voilà,
oui,
c'est un
d'accord,
truc
la toison
symbolique.
d'or, ça te fait plaisir, mais je voyais pas le but plus loin que d'avoir
L'intérêt du truc.
un joli tapis pour mettre sur une chaise, quoi.
Et du coup, il vient à Colchide parce que la toison d'or, elle est gardée par Été, le papa de
Ça s'écrit
Médée.
comment? Été.
Alors, il y a plusieurs orthographes.
Ah oui, je suis bête.
Moi, je l'ai vu dans le livre où j'ai pas mal pioché d'infos avec E accent aigu et... Attends, j'ai perdu mon... E accent aigu, T, H et E. Et sinon, j'ai déjà, on l'a vu
Ok.
aussi avec... Deux E accent aigu à la suite, T E accent grave S, ou aussi encore
Oh.
A E dans l'eau, E T E accent grave S.
Oui, bon, de toute façon, si on mélange le grec et le géorgien,
Sinon, tu dis le papa de Médée.
le père Amédée,
Le père.
le padré.
Donc, Médée, justement, elle va tomber folle amoureuse de Jason. Je vais dire Jason à chaque fois parce que c'est vachement plus drôle. Jason.
Jason.
Et du coup, pour citer la comédie musicale Roméo et Juliette, par amour, on devient fou.
Ah oh oui, vous devenez fou.
Et donc, Médée, elle va devenir complètement folle. Elle va aider Jason à s'emparer de la toison d'or et tous les deux, ils vont fuir sur un bateau. Sauf que, du coup, son père est pas très content parce qu'il a été trahi par sa propre fille et il va les poursuivre avec un autre bateau.
Ah ouais.
Et Médée, pour ralentir son père, va décider de tuer son petit frère, le démembrer
Ah!
et jeter des morceaux au fur et à mesure par-dessus bord, comme le petit poucet.
D'accord.
Et donc son père va être ralenti parce qu'il va s'arrêter pour récupérer les morceaux de son fils, qui a été sacrifié sur l'autel de la violence éternelle.
Oh! Oh, je suis émue par ce que tu me dis et en même temps c'est horrible cette histoire.
C'est horrible.
Il va falloir un moment là.
Le pauvre père, il se fait trahir par sa fille et qui doit récupérer des morceaux de son fils. C'est génial.
Elle n'aurait pas pu prendre un autre truc.
T'inquiète pas, c'est pas fini dans la violence. Continuez dans la violence. Donc, Médée va épouser Jason. Et comme on vous disait, si Jason a récupéré la toison d'or, c'était pour récupérer le trône. Donc, il rentre dans son pays et Médée va décider d'assassiner l'oncle de Jason parce qu'elle l'a pas aimé vu qu'il a pris le trône de son mec.
Oh! Ah oui, d'accord, l'oncle de Jason.
Comment elle assassine l'oncle de Jason? Eh bien, elle va convaincre les cousines de Jason qu'elles peuvent rajeunir leur père grâce à un sortilège qui va consister à démembrer et jeter dans un chaudron bouillant leur père.
Elle a un truc avec le démembrement, hein.
Ouais.
Elle aime bien.
Les cousines, elles vont voir leur père en disant et si on faisait ça? Le père, il dit non. Et du coup, elle le
Bon, faisons plutôt un puzzle.
capture et elle le démembre sans son
Mais.
consentement en se disant mais si il va être jeune après sauf que bah ça marche pas elles sont pas magiciennes donc il
Oh,
meurt dans d'atroces souffrances tué par ses propres filles
c'est
qui vivent avec le
horrible.
traumatisme voilà.
Ne faites pas ça chez vous.
Ça passe pas très bien du coup Médée et Jason vont être dénoncés et exilés à
Ah, ils sont que
Corinthe.
et dénoncés, exilés pour l'époque. Je trouve que c'était relativement clément quand même pour avoir genre démembré quelqu'un.
C'est clair. Bon, pff, Mais non, c'est pas elle qui l'ont démembré. Elle a juste convaincu des gens de le faire.
C'est chill.
Une fois exilés à Corinthe, ils vont avoir deux enfants, mais des Jason. Sauf que Jason, en super mari, va tomber amoureux de quelqu'un d'autre, qui n'est autre que la fille du roi de Corinthe.
Et il me saoule tout cela.
Donc, il va répudier Médée pour en épouser une autre.
Bah ouais, allez, vas-y. C'est bon, il m'en saoule.
Médée est furieuse, puisque l'homme pour qui elle a tué et trahi va l'abandonner. Et donc, elle tombe dans une rage violente.
Et elle le démembre !
Non ! Ah. En premier, ce qu'elle va faire, c'est offrir une tunique ensorcelée à la nouvelle femme de Jason. Sauf que comme elle est ensorcelée, la tunique va prendre feu et immoler la femme.
Ah.
Son père, le père de la femme, va essayer de la secourir, sauf qu'il va brûler avec, et tout le palais va flamber.
Et oui, le feu, ça se propage.
Voilà. Chouette, chouette, chouette. Ah, voilà. Et ensuite, pour continuer de se venger de Jason, elle va décider que le seul moyen de lui faire subir une douleur aussi grande que la sienne, c'est de tuer leurs propres enfants.
D'accord.
Donc elle va commettre ce qui est considéré à l'époque comme le pire crime, un double infanticide.
Oui, parce que si c'est juste un infanticide, ça va.
Elle aurait pu en regarder un, hein, mais non.
Un survivant pour raconter l'histoire, comme toujours.
Voilà. Et c'est pas fini.
Non, c'est pas fini.
Médée va à nouveau prendre la fuite. Elle va se réfugier à Athènes, où elle épouse le roi Égée, qui visiblement, soit est au courant de rien, soit il est complètement con.
Peut-être un petit peu des deux.
Et donc, ils vont avoir un fils ensemble, sauf que Égée a déjà un fils qui s'appelle Thésée, et que Médée va vouloir faire assassiner pour favoriser son propre fils.
Oh là là.
Donc, elle va essayer de convaincre Égée que Thésée est en fait un imposteur et qu'il doit empoisonner l'imposteur.
Mais un imposteur de quoi ?
Bah, que c'est pas son vrai fils, c'est quelqu'un qui se fait passer pour son fils. Et la dernière minute, Égée remarque que Thésée porte, je crois que c'est ses sandales et son épée, et du coup, ça ne peut être que lui. Genre, il ne reconnaît pas au visage, il reconnaît aux accessoires.
Ouais, mais en même temps, à l'époque, je pense que tu passais pas particulièrement de temps avec tes enfants quand tu étais très riche.
Ouais, puis ils partent tous à l'aventure pendant des années, donc...
Faire péter la tête au combat, tu te finis par tous te ressembler.
Donc, le plan de Médée est déjoué, et donc dans la panique, elle va aller vider les caisses du palais et s'enfuir avec le trésor royal sur un char de feu tiré par des cobras. Voilà,
alors ça,
sortie dramatique.
C'est un peu classe, très dramatique. Hein. Je pense que cette personne a du lion, du scorpion probablement en elle. Hein. C'est très drôle.
Ensuite, on a peu d'histoires qui racontent ce qu'elle va advenir, comment ça se passe la fin de sa vie. Mais je trouve que c'est pas mal de partir là-dessus sur la sortie en char de feu tiré par des cobras.
Oh mon Dieu, j'ai envie de la dessiner maintenant. Alors qu'elle a fait des choses horribles.
Et bien justement, belle transition, ce mythe super glauque a inspiré beaucoup d'artistes, notamment pour représenter la scène de l'infanticide. Ah. Je vous ai cité au début la peinture dans le musée des Beaux-Arts de Nancy, qui est une peinture par Henri Klagman. Mais j'aime aussi beaucoup une version de Médée par Mucha. Vous pouvez aller chercher sur Internet, qui est très jolie aussi.
Alors, Médée, Mucha. Comment Mucha ?
À la fin de l'épisode.
C'est trop tard.
Alphonse Mucha, MU.
Ah ouais, moi j'avais mis un T comme un chat. Ah oui, en mode art nouveau. Ils aiment bien ça quand même, dessiner les femmes infanticides. On sentait que genre d'un côté ça leur faisait très peur et d'un côté limite ça les excitait un peu.
Bah Mucha, je sais pas m'aider dans quel contexte il l'a faite, mais je sais qu'il illustrait beaucoup les affiches de théâtre. Donc c'est possible qu'il ait...
Elle est debout avec une dague à la main et par terre j'y ai un enfant.
Oups.
J'ai glissé.
Entre autres, si Médée est beaucoup populaire dans l'art, c'est surtout dû à la pièce Médée de Euripide. Vous pouvez retrouver dans les éditions Librio à 2 €. Petite promo pour les éditions Librio.
Et probablement chez tous les bouquinistes au rayon.
Exactement, je pense qu'il y en a 1 milliard.
Toutes souvent, les pièces de théâtre que tu lisais à l'école. Ouais.
D'ailleurs, c'est tellement court que dans la mienne, il y a une autre pièce après. Rester de la place.
Ah oui, je crois moi aussi, ouais. Il restait de la place.
Et donc, cette pièce, elle se concentre surtout sur la décision et l'acte de tuer ses propres enfants.
Ah ouais.
Et c'est une super pièce. J'ai eu la chance d'en voir une représentation quand j'étais en seconde avec ma classe. Et en fait, du coup, tu as toute la descente psychologique d'une femme qui s'enfonce de plus en plus dans l'horreur et qui justifie ses actes par le fait qu'elle ressent de la douleur. Et c'est hyper intéressant comme thème. Du coup, ça a aussi inspiré beaucoup d'autres auteurs qui ont écrit sur ce mythe, comme Jean Anouilh, Sénèque ou Corneille, pour vous citer les plus connus. Et j'ai d'ailleurs repéré une BD en plusieurs volumes qui a été écrite par Nancy Peina et Blandine Lecaillé. Et comme j'aime bien Blandine Lecaillé, je pense que ça va être mon prochain achat BD.
J'en ai trouvé, j'avais trouvé par hasard, je crois, le premier tome sur Vinted. Et comme je ne trouvais aucun autre tome sur Vinted, je me suis dit, écoute,
Ne t'es
Marion,
pas laissé tenter.
je ne me suis pas laissé tenter parce que je savais que ça allait m'agacer de ne pas retrouver la suite, de devoir aller commander.
En tout cas, moi, je trouve ce mythe fascinant parce que, enfin, c'est vraiment, tous les gens sont absolument horribles et il y a des rebondissements absolument cruels et ça fait un peu Game of Thrones. Donc,
J'étais totalement en train de penser à Game of Thrones. Ça fait penser
exactement.
à Cersei et ça ne m'étonne pas qu'elle soit inspirée de plein de figures mythologiques comme ça, de mères un peu torturées.
Ouais. Et du coup, HBO, je compte sur vous, prochaine série.
Tu dis HBO?
HBO, tu dis quoi toi?
No shaming. HBO.
Pardon.
Sorry.
Oui, en même temps, Jason, faudrait que je dise HBO.
Je crois que c'est parce qu'à l'époque où je regardais beaucoup en streaming illégal et au début de chaque épisode, t'entendais une voix grave de monsieur qui disait Last week on HBO.
Ok. Donc, je voulais terminer en vous lisant une citation de la pièce de Ripide, mais avant, je tenais à préciser que dans mon livre, que j'ai donc lu en seconde, enfin, que j'ai acheté en seconde, je l'ai relu depuis, j'avais souligné les passages particulièrement misogynes de la pièce et fait des petits bonhommes pas contents à
Oh,
côté.
c'est pire.
Ça m'a fait bien rire de voir les petits. En plus, ils sont trop moches, mes petits bonhommes pas contents. Donc, l'extrait, ça se passe à la fin de la pièce, spoiler. De toute façon, je viens déjà de vous raconter toute l'histoire. Donc, comme je disais, la pièce, elle se concentre sur l'infanticide. Et on est donc au moment où Jason découvre que ses deux enfants sont morts des mains de Médée et lui reproche. Et Médée répond: J'en aurais long à dire pour répliquer à ton éloquence si Zeus, notre père, ne savait fort bien ce que j'ai fait pour toi et ce que tu m'as fait. Tu n'allais pas, après avoir bafoué mes droits conjugaux, mener tout au long la vie douce, en riant à mes dépens. Ni toi, ni ta femme, et celui qui te l'a mise dans les bras, Créon, n'allaient pas impunément me chasser de ce pays. Sur ce, traite-moi bien de panthère, à ta guise. En te broyant le cœur, j'ai fait ce que je devais, rendre coup pour coup.
C'est marrant, entre guillemets, parce que de nos jours, dans les, entre guillemets, faits divers, c'est beaucoup d'hommes, en fait, qu'on voit punir leurs ex-compagnes, souvent, en tuant les enfants, et rarement les femmes. Voilà, petite remarque.
Parenthèse joyeuse. Bon, j'espère que ta chronique va être un petit peu plus,
Toujours.
Disons, tournée vers la vie et le bonheur.
Eh bien, tu ne crois pas si bien dire, puisque...
Ah.
Il va y avoir quelques petits liens, hein, mais vraiment ténus. C'est une chronique que j'ai choisi sobrement d'intituler La chronique du feu.
Oh,
C'est un peu
boule de
classe.
feu.
J'espère que vous avez passé un bon mois de mai si vous nous écoutez à la sortie de cet épisode. Et on va revenir un tout petit peu en arrière, ou beaucoup, selon quand est-ce que vous nous écoutez, puisque je vais parler du 1er mai exactement, qui est, comme chacun sait, la fête du travail.
La fête du travail.
Voilà, sauf quand c'est férié un dimanche. Mais c'est aussi, je vous le donne en mille, une fête païenne ancestrale reprise par un courant
Ah!
ésotérique néo-païen très connu qui nous vient des USA, j'ai nommé là.
Mika!
Ouais! Voilà, j'en parle à chaque épisode, c'est mon running gag. Le premier jour, je fais une chronique dessus. Et oui, du coup, après Ostara, le sabbat de Pâques, Yule, le sabbat de Noël, ou encore Samhain, le sabbat d'Halloween, je vous présente Beltane, le sabbat de entre le printemps et l'été. J'ai pas trouvé de meilleure définition, parce qu'en fait,
Le
y a
boucheton.
8 fêtes païennes. Je vous préviens d'ailleurs, il y a 8 fêtes païennes et on va tous les faire. Mais ouais, du coup, t'en as une par saison et une d'intersaison à chaque fois. Enfin, pour nous, c'est entre les saisons, parce que pour nous, il y a 4 saisons, mais selon les peuples, à chaque fois, il y en avait soit 3, soit 2. Bref. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais couper un peu la chronique en deux. Et d'abord, je vais parler de Beltane, et ensuite, on fera un petit zoom sur la magie du feu, puisque vous allez voir que Beltane, c'est une fête du feu. Voilà. J'annonce, on va faire aussi, du coup, les éléments dans la magie, ça va être marrant. Donc, Beltane, ça s'écrit Beltane, ou Beltane, Beltaine, en France, parce qu'on aime bien tout franciser.
C'est comme été, t'as plein d'orthographe.
Là, ça va, j'en ai trouvé que deux pour Beltane, alors que pour Samhain ou Ostara, t'en avais plein. Ça, Beltane, ça a l'air d'être quand même une fête assez populaire, parce que quand tu cherches des informations, déjà, tu en trouves beaucoup. Mais surtout, je suis allée sur Spotify pour chercher des épisodes de podcast sur Beltane et je suis tombée sur 1000 playlists Beltane. Alors que d'habitude, quand je cherche des noms de fêtes païennes, je regarde un petit peu ce qu'il y a comme playlist parce que souvent les gens font des playlists de chansons qui leur font penser à telle et telle fête. Et je remarque que Beltane a quand même beaucoup de succès. Pourquoi du coup c'est une fête du feu? Parce que le Tan, ça voudrait dire feu en gaélique et Bel, c'était tout simplement le nom d'un dieu gaélique. Petit rappel que les historiens ne viennent pas attraper ma veste. Par gaélique, j'entends les peuples écossais et celtes pré-christianistes en très gros. De toute façon, même les historiens, ils ne sont pas d'accord. Donc, c'est à peu près ça.
On a le droit.
Donc, Beltane, c'est la fête du feu de Bel. Mais tu me diras, qui est Bel?
Qui est belle?
Bel,
C'est un nom qu'on
la
a
lune qui
inventé
ressortait.
pour elle. On n'a pas fait le même couplet.
Oh là là. Pas du tout, mais c'était marrant. Donc, Bel, c'est un type qu'on appelle aussi Bélénos ou Bélénus. Je préfère Bélénos, je trouve ça un peu classe. Et c'est, comme Hélios, dont tu as parlé, un dieu du soleil.
Ah, lui aussi.
Voilà, lui aussi. Soleil, lumière et globalement vigueur et bonne santé. Donc, tu vois, il y a un peu de bonheur dans l'histoire.
Il a l'air sympa.
Oui, il a l'air sympa, franchement. Et du coup, pour lui rendre hommage et en même temps rendre hommage à la saison très lumineuse qui arrive, on allumait donc un feu de joie avant la nuit du 1er mai. On appelle aussi cette fête la veille de mai, ou c'est aussi ce qu'on appelle dans les cultures anglo-saxonnes, enfin germaniques, la Walpurgist Night ou la Walpurgist Nacht en Allemagne. Voilà. J'ai prononcé un mot en allemand, je me sens un peu classe. Et si du coup ça vous rappelle un peu Yule ou Ostara, le côté on fait un feu parce qu'on rappelle les beaux jours et tout. Ça, c'est pas un hasard en fait, parce que la roue des sabbats, ça célèbre toujours les saisons, et qui dit saison dit luminosité, dit soleil, dit feu. Donc en gros, il y a toujours un rapport avec le feu dans tous les sabbats. Samhain par exemple, c'est la saison du. Tu célèbres un peu le dark side de l'année.
Ouais.
Yule, tu célèbres le fait que. Bon, là il fait sombre, mais ça va aller mieux. Ostara, c'est youpi, il commence un peu à faire jour. Et Beltane, c'est oh là là là, on va carrément vers le solstice, on est trop content, on fait du feu. Globalement.
J'aime bien ton résumé.
Non mais vraiment, non mais parce qu'en plus, pour nous c'est un peu anecdotique, tu vois les saisons, c'est genre assez joli, c'est poétique, c'est machin. Pour eux, genre il n'y avait pas d'électricité, tu dépendais du taux de luminosité pour tout, donc c'était un peu vital quoi. Gros stuff. Donc, les thèmes de cette fête donc sont à peu près tout ce qu'on peut trouver autour du feu, c'est-à-dire la chaleur, la lumière, deux choses qui me détestent par ailleurs. D'ailleurs en sorcellerie, traditionnellement en Europe, c'est aussi souvent associé au désir. La preuve, on dit encore en français, je brûle le désir, le feu qui m'anime, le feu de la passion. Oui, parce que le feu, ça signifie aussi la passion, la passion. Voilà,
Passionne.
imaginez Eva Longoria, les cheveux au vent dans une telenovela.
Oui, j'adore cette série,
Oui.
c'était tellement drôle.
Oui, parce que si vous ne savez pas, il y a une série qui s'appelle Telenovela avec Eva Longoria et elle est très chouette. Eva Longoria est formidable, de toute façon, j'aime beaucoup cette personne. Soit dit en passant, donc c'est la passion, la création et la procréation. Sous-entendu, c'est une fête un peu chaude bouillante, parce qu'en fait, ça va dans la continuité d'Ostara qui fait en fait un peu l'éveil du printemps. C'est le pastel, les animaux font des bébés, il y a des œufs, il y a des fleurs. Sauf que là, avec Beltane, on a ouvert les œufs, les fleurs sont transformées en fruits, il fait beau, il fait chaud, reproduisons-nous. L'idée, c'est donc aussi un peu la fertilité. Et on va un peu le voir, le feu, ça a toujours une notion de création, mais de destruction, un peu comme si c'était un cycle infernal. Je reprends ma respiration parce que je crois que je respire mal.
Sachez que Marion enregistre cet épisode alors qu'elle est malade, donc voyez le dévouement qu'on met pour vous produire ces épisodes. C'est beau.
Ouais. Là, je donne tout. Je reprends ma petite tisane infusion de thym. Même que ma médecin généraliste a dit « Buvez des infusions de thym, c'est très bien, c'est antiviral. » Et j'étais là, j'en bois déjà. Je me sentais vraiment très fraîche. Donc, parenthèse maladie fermée. Au-delà du feu de joie, en fait, bon, le feu de joie aujourd'hui, traditionnellement en France, ça va plutôt un truc qu'on fait vers le solstice d'été, vers tout ce qui va être la Saint-Jean. Mais une des pratiques qui reste chez les néo-païens, en tout cas, en Europe en général, c'est la pratique du mât de mai. Tu vois ce que c'est ou pas ? Eh bien, je ne savais pas avant, mais quand j'ai vu les photos, non. Je me suis dit « Ah ouais, c'est ça qu'ils mettent dans toutes les fictions où il y a des trucs païens. » En gros, c'est un mât, donc comme sur un bateau, un gros bâton, quoi, une poutre plantée dans la terre. Petite dédicace à Manon Bril. Une poutre plantée dans la terre. Tout en haut, il y a des fleurs, parce que j'imagine que c'est joli. Et tout en haut, encore une fois, sont accrochés plusieurs longs rubans ou cordelettes de couleur, en fait, que chaque personne va prendre et qu'on va faire danser un peu autour. Donc voilà, c'est plutôt sympa, je trouve. C'est presque estival, déjà. Et d'ailleurs, si vous avez vu le film Midsommar, qui ne se passe pas du tout à Beltane, mais pendant le solstice d'été en Suède, ils font la même chose. Donc je pense que c'est peut-être un truc qui est tellement... Ouais, c'est visuel, c'est joli et tout, et du coup, peut-être que ça se met dans pas mal de fictions. Dès qu'on met des choses un peu païennes, ça passe très bien. Il y a un peu le côté, on danse en cercle autour d'un truc, on est content. C'est la roue, hein, c'est le cycle des choses.
Le cycle des choses.
Ce qui m'amène vers la thématique du feu dans la magie, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la magie, en général, vous... une grande passion aux quatre éléments et notamment au feu. Donc comme je l'ai dit, généralement en magie, que ce soit en Wicca ou magie moderne, le feu ça symbolise quasiment toujours l'instinct de la vie, le truc un peu primaire comme ça, le désir, la création. Mais c'est marrant en plus parce que c'est vraiment genre le truc qui je pense nous a tous fascinés quand on était enfants ou qui nous fascine tous encore. Et je vous défie de dire que vous n'avez jamais joué avec une bougie ou des allumettes ou essayé de faire un feu.
Je me souviens quand on était au lycée, j'avais une pote qui avait trouvé un briquet par terre et qui s'amusait à essayer de brûler plein de trucs en criant « Je suis pyromane !» C'était très drôle. Ça aurait pu très mal finir.
Ça me rappelle la série Derry Girls, que je vous conseille d'ailleurs, dans laquelle il y a une fille qui s'appelle Orla et qui est un peu spéciale, dirons-nous. Et à un moment donné, ils croisent un beau gosse et sa cousine est fan du beau gosse et le mec leur demande « Est-ce que vous avez du feu ?» Et elle dit « Non, j'ai pas de feu, pourquoi je fume pas ?» Et la fille qui s'appelle Orla et qui est un peu spéciale, elle lui envoie un briquet et elle dit « Moi, je fume pas, c'est juste pour faire fondre des trucs. »
Voilà. Je l'aime bien.
Elle est géniale. Bref, du coup, oui, bah, tout ça pour dire que le feu, je trouve que quand tu connais rien à la combustion, c'est quand même une sacrée apparition. C'est un truc vraiment quasi magique. Ouais. Si vous avez déjà dans votre vie allumé un feu de cheminée, par exemple, je pense que vous connaissez la joie que ça procure d'avoir réussi à faire un feu. Genre, tu te sens toujours un peu ouf. Ouais. C'est vraiment, t'as fait un truc magique, t'as fait un truc puissant, là.
Dans l'histoire de l'humanité, le feu, ça a été tellement un changement... Que on a encore dans nos gènes le fait que wow, c'est ouf, toutes les possibilités, on va pouvoir cuire des trucs.
C'est limite si tu sautilles pas de joie devant ton feu, t'es là,
mais
regardez, si ça brûle, si sur le côté, il y a des petites flammes, regarde. Et puis bon, ça permet aussi de dire à votre chat quand il vous saoule que toi tu sais faire du feu et pas lui. Voilà. Ça peut être un argument. Si vous vous disputez un jour avec votre chat. Mais aussi, le feu, c'est aussi vital que c'est dangereux. C'est-à-dire qu'il y a toujours un double tranchant. Tu peux te brûler, ça peut se propager, comme ça a été le cas quand... C'est Médée qui a cramé le château de...
Bah voilà, Médée qui fout le feu à la nouvelle femme de son mari. Et le père et le château.
Et oui, le feu,
probablement tout le pays.
Dangereux. Et oui, parce que
dangereux.
On ne peut pas le contrôler ou difficilement. Donc il y a toujours une notion un peu avec le feu de quelque chose d'un peu sauvage, de primitif, parce qu'en plus ça nous rappelle à nos premiers pas sur Terre en tant qu'être humain. D'indomptable en tout cas, et de rapide aussi. Des trucs, comme je disais, il y a toujours la notion de création et de destruction. Et notons aussi que dans pas mal de religions, dont la religion chrétienne, le feu, ça signifie aussi la purification. D'où, malheureusement, les bûchers de toutes les personnes hein, que la chrétienté n'aime pas. Ainsi que des chats, malheureusement. Minute pop culture.
Non. On va changer de sujet.
Est-ce que... Non, pas. Est-ce que tu connais la BD Witch ? Qui est devenue Winx après.
Oh, ouais, le truc des années 2010.
2000, ouais. Quand j'étais petite.
Ah, c'est si vieux que ça ?
Ouais, Witch, c'est vachement vieux. Je lisais ça, j'avais une dizaine d'années. C'était dans Mini Magazine à l'époque. Ouais.
Okay.
Bref, c'était Witch, c'était super bien. C'était un groupe de 5 sorcières, je crois, et toutes, chacune d'elles avait un élément. Enfin, il y avait 4 éléments, et l'une d'elles, elle avait un truc en plus, genre elle, c'était la magie pure ou un truc comme ça. Bref, ensuite, ça a été Winx qui a eu un succès fou. Là, pour le coup, c'était des fées qui avaient chacune un pouvoir. Mais tu vois ça dans toutes les fictions où tu as généralement un groupe d'adolescentes qui font de la magie, genre bah, The Craft, dont on a déjà parlé dans l'épisode sur les rituels, le remake en tout cas de The Craft. La fille qui a l'élément du feu, elle est toujours vue comme ultra badass, ultra sexy, elle est toujours un peu l'héroïne en fait. Le feu, c'est toujours la meuf trop cool.
C'est la puissance.
C'est la puissance.
Alors que c'est marrant parce que je connais quelqu'un qui est pompier et elle disait que les pompiers craignent plus l'eau que le feu.
Ah ouais ?
Parce que quand il y a une inondation, se faire sortir l'eau, c'est impossible. C'est vraiment c'est une inondation, c'est foutu quoi. Alors que un feu, tu peux essayer de lutter contre le feu et de l'éteindre.
Ouais, bah je préfère mourir noyé que brûlé.
Moi je préfère vivre.
Je préfère vivre, mais ça me donne le choix. Voilà, c'est très personnel. Mais donc, je sais pas si tu as vu, je te le demande même si je sais que tu ne l'as pas vu, la série Winx sur Netflix.
Non, je m'y oppose.
Eh bien, je m'étais fortement opposée et je sais plus quand, l'année dernière, en fin d'année, j'ai eu vraiment un moment de faiblesse et je l'ai regardé. Et
ça n'est pas
si vous ne l'avez pas vu, peut-être ne la voyez pas. Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai tout vu et je ne suis pas prête à voir la saison 2. C'est ça le truc.
Oui, mais c'est normal. C'est créé pour. C'est parce que...
Oui, et puis je suis très bon public. C'est ça qu'il ne faut pas oublier.
Bah oui.
Et moi, tout ce qui est truc école de magie, je tombe dans le panneau à chaque fois, quoi. Bref, et donc dedans, l'héroïne est ultra badass et c'est celle qui a le pouvoir du feu.
Forcément.
Donc, encore une fois, classitude. Et pour le côté un peu sauvage, destructeur, pour les personnes qui connaissent Le Seigneur des Anneaux, lorsque la communauté de l'anneau passe par les mines de la Moria, il réveille un esprit...
Flamme dodo.
Un démon du feu qui s'appelle Balrog. Et là, pour le coup, déjà, il y a le truc un peu ancestral. Ils ont réveillé un truc vachement profond et tout. Et il y a le truc vachement incontrôlable, destructeur, primaire, hyper rapide. Donc là, on a bien toutes les thématiques du feu. Sauf la création, bien sûr. Et donc, j'ai remarqué que dans les rituels de magie, on se sert généralement du feu pour deux choses bien distinctes. Deux moments, en fait. Pour ouvrir et pour fermer le rituel.
Ouais.
Donc... Donc quasiment tous les rituels et les sorts qu'on te propose, on te propose d'allumer une bougie pour commencer, pour marquer le début, et de l'éteindre ou de la laisser se consumer pour marquer la fin du rituel. Et je trouve ça assez amusant, genre ça fait très humain primitif, parce que notre journée elle commence avec le soleil, elle finit avec le soleil, elle commence avec la lumière, elle finit avec la lumière, donc je trouve ça marrant comme petit cycle. Et puis il y a le côté aussi où t'allumes une bougie pour te protéger, parce que le feu ça signifie aussi... C'est quelque chose de rassurant pour nous, j'imagine, primates diurnes. On n'échappe pas à notre nature.
On ne change pas.
On ne change pas. Mais juste avec le style d'autre sur soi. Ah, c'est devenu un podcast karaoké, j'adore.
Oui, c'est un peu mon but de transformer tous les podcasts où j'interviens en truc musical.
Ah, et l'autre moment où tu vas te servir du feu dans un rituel, ça va être pour consumer quelque chose dont tu t'es servi. Et ça va un peu, genre, soit acter le souhait que tu veux ou faire partir la chose vers, je sais pas, d'autres sphères. Soit ça va détruire la chose dont tu ne veux plus.
Ok, ça me fait penser à l'épisode de Friends où elles essayent de faire un rituel et de brûler des vieilles photos, des trucs.
Non.
Et en fait, elles foutent le feu.
Je me rappelle pas.
Dans des tout premiers épisodes.
J'ai vu Friends qu'une fois, donc ça m'a pas marqué de fou.
Ah.
Je ne suis pas de génération Friends, je suis génération New Girl.
Ok, je te juge. Vas-y, continue.
Aucun problème avec ça. Je trouve que Friends est très surestimé. Donc, j'ai une notion. C'est la fin de notre amitié en live. Il y a, avec le feu, on l'a dit, une notion d'apparition, disparition, commencement, fin. Bref, c'est encore une fois la thématique du cycle, qui est donc la thématique qui revient le plus souvent dans la magie, parce que bah, la vie est un cycle. La vie, la mort, les saisons.
L'histoire de la vie, le cercle éternel.
Je vais vous donner un exemple que je vais faire en toute sécurité en live. Je vais faire c'est un tout petit sort, hein, je préviens.
Est-ce que tu vas filmer ?
Non, mais j'ai pris une photo des ingrédients.
Ok.
Je crois qu'il faudrait que je filme en plus.
Bah moi, j'ai un peu envie de voir.
Non, mais je vais avoir besoin de mes deux mains, c'est ça le truc.
Bah, demande à ton chat.
De toute façon, il dort, donc même s'il pouvait.
Ok. Bon.
Il est toujours très inutile, hein. Je l'aime, mais bon. Du coup, il sert à rien. Si, il m'apporte énormément de joie. Il s'agit d'un sort de réalisation slash souhait, slash, si vous traînez un petit peu trop sur les réseaux sociaux, du manifesting. Ceux qui savent, savent.
Manifestation ?
Ouais, c'est en gros un truc beaucoup que tu vois dans le monde anglophone, mais qui est en train d'arriver en France. En gros, c'est un peu de la pensée magique, quoi. C'est des affirmations, et à force de te les affirmer, l'idée, c'est que tu vas les faire apparaître.
Je viens d'avoir une idée de blague nulle, mais je me sens obligée de la faire. Oui. C'était drôle de faire de la manifestation pour le 1er mai. Voilà.
Et donc, ce petit sort, je l'ai trouvé, comme d'habitude, dans un ouvrage qui s'appelle Witch Please. Jack Parker, parce que, comme je me suis dit, vas-y, on trouve de tout sur le web, je préfère encore faire confiance à une autrice dont je connais bien le travail et les valeurs, et bon, ça me fait plaisir voilà. De la citer à chaque fois.
Merci, Taous.
Voilà, Taous Merakchi, cœur. Alors, les ingrédients. Il faut donc un stylo,
okay, j'ai.
Une bougie blanche
j'ai pas.
Ou d'une couleur qui va avec le sort que tu veux. Mais généralement, en magie, le blanc, ça représente toutes les couleurs.
Ok. Bah, aussi.
Une feuille de laurier aussi. Feuille de laurier que vous pouvez acheter dans tous les rayons qui vendent des trucs pour la cuisine. Une allumette ou un briquet. Et moi, personnellement, j'ai un petit cendrier en céramique pour les cendres parce qu'on est censé laisser les cendres aller là où elles veulent. Mais moi, j'ai fait un peu le ménage ce matin, donc c'est mort.
Ah putain, un chat aussi.
Je laisserai les cendres partir dans le vent par la fenêtre.
Où elles veulent après. Dans le cendrier.
Où elles veulent, pas chez moi. Et j'ai aussi un petit peu d'eau à côté de moi, au cas où, parce que la sécurité. Je rappelle,
ne
faites pas ça chez vous les enfants, ou alors demandez à un adulte. Ensuite, la marche à suivre, bah, elle est très simple en fait. Tu allumes la bougie.
Ok, donc,
moi,
ça c'est.
Petite allumette parce que
ça fait facile. Un bruit.
Craquement.
Ah, ASMR.
Voilà. J'allume la.
Un
petite...
peu déçu du bruit ASMR, mais c'est pas grave.
Je recommencerai bien, mais ça me ferait craquer une autre allumette. Là, j'ai éteint l'allumette, vous pouvez
t'as
pas
soufflé.
L'entendre. J'ai soufflé.
Si, on a entendu et... souffler.
Ensuite, il faut que j'écrive sur ma petite feuille de laurier un mot qui me fait penser à mon souhait. Et comme je suis... je vis dans un monde okay. matérialiste et je suis une fille matérialiste, comme dirait Madonna, je vais écrire « argent ». J'ai donc écrit « argent » sur mon petit truc. Et maintenant...
Peut-être que tu vas recevoir des bijoux en argent.
Je m'en fiche, je veux tout.
Fais un petit symbole euro.
Ouais, t'as raison, bonne idée. Je vais même mettre un symbole dollar parce que j'accepte toutes les devises.
Mais tu vas perdre au change.
Tant pis, je l'ai déjà écrit. Donc là, j'attends que ça sèche un peu. Et en même temps, là, tu te concentres un peu genre sur ton souhait. Et tu visualises la chose. Et comment l'argent...
Okay, faut que tu prennes en photo la feuille.
Oui, c'est vrai, bonne idée. Et tu visualises comment ton sort, comment ton souhait te rendra la vie plus douce et plus facile.
Propriétaire.
Oui, je ne serais pas allée jusque-là tout de suite, mais c'est le but.
Je rêve trop grand.
Je crois que tu rêves trop grand, trop vite. Et maintenant que j'ai potentiellement de l'argent, l'idée c'est que pour faire partir mon souhait dans les hautes sphères et qu'il soit réalisé, je crame la feuille à la flamme de la bougie au-dessus de mon petit cendrier.
Okay.
Attention. Ah, d'accord, ça a cramé 2 secondes et ça s'est arrêté. Ah, ça y est.
Mais si elle est pas
ça y est, ça
sèche.
Crame bien. Ah, si, si, elle est sèche, sèche. Mais je sais pas, mon appart, il doit être trop humide.
Trop fou le bruit que ça fait.
Ouais, j'ai un peu peur. Je revis vraiment mes meilleurs moments d'enfant, moi qui fais cramer des trucs. En fait, je la recrame à chaque fois parce qu'elle crame pas entièrement. Tout fun.
Elle doit être encore trop humide.
Ah non, pourtant, elle est bien, bien sèche.
Est-ce que ça sent bon?
Non, ça pue. Je suis désolée, Boris. Ça pue pas mal. Ah, ça schlingue. Ah! Et oui, le feu, ça brûle, attention.
C'est génial.
L'eau, ça mouille. Petit conseil de pro. Oui, au fait, faites ça en plusieurs fois, hein. Pensez bien.
Non, faites pas ça, dis pas ça. Après, on va finir avec des gens qui vont cramer leur appart.
Non, mais parce que je suis obligée de la cramer par petits bouts, parce que sinon, elle ne crame pas. Ah, c'est fatigant. Hein. Je suis en train de niquer ma bougie, moi, avec ça. En plus, c'est une bougie chauffe-plat longue durée, quand même. Alors, pro tip, si ça ne crame pas assez, trempez votre petite feuille dans la cire de la bougie. Voilà. Il y a la queue qui brûle pas. Avec... Ah! Comme je suis un peu têtue sur les bords. Voilà. Le reste a fini dans ma bougie.
Ça c'est y bon, est. C'est fini.
Je prends une petite photo.
Ok, je raccroche les pompiers. J'avais déjà composé.
Voilà. Et bien, et ensuite, on est censé soit éteindre la bougie, soit la laisser se consommer. Mais comme je suis radine, je vais l'éteindre.
Mais tu seras bientôt plus besoin d'être radine parce que tu auras de l'argent.
Exactement. Voilà, peut-être que ça va commencer demain. Peut-être que demain, je vais tomber sur 2 euros par terre. Qui sait la richesse que la vie peut m'apporter.
C'est comme ça que ça commence.
C'est comme ça que ça commence. Tous les centimes. Moi, je prends toute la richesse qu'on me donne. Je me sens déjà plus riche.
Ah, peut-être que tu vas avoir la richesse psychologique.
Non. Moi, je veux pas de la richesse psychologique, ça m'intéresse pas. Moi, je veux un cheat
ça
code.
Paye pas les factures.
Je veux un cheat code Sims.
On vit dans
ma
un
vie.
Monde capitaliste. C'était très drôle ce petit tuto.
Et bien, écoute, ça m'a beaucoup amusée. Je suis ravie.
Allez, c'est la partie anecdote.
Ouais.
C'est la partie anecdote.
C'est les anecdotes, les super anecdotes.
Yeah. Alors, est-ce que tu as une recommandation?
J'en étais sûre. Tu vois, toujours, on n'a jamais confiance en moi. Et en fait, j'ai pas de recommandation, Louise.
Tes actes parlent pour toi, Marion.
Enfin, c'est pas vraiment une recommandation, c'est une recette.
Okay.
Mais une recette perso.
Ok.
Comme vous l'avez certainement beaucoup entendu, j'ai été malade la semaine dernière, et je le suis toujours un peu. Et ça m'était pas arrivé depuis des lustres. Du coup, j'ai remarqué que quand on était malade, en plus des médicaments du médecin, on avait tous et toutes, plus ou moins, genre, une petite boisson fétiche, un truc que tu te prépares en mode potion, en te disant que ça va aller mieux. Et la mienne, c'est un mix de grog, slash traditionnel citron, gingembre, miel, slash lait d'or.
Ouais.
Donc je me suis dit que j'allais donner ma petite recette de potion.
Du rhum ?
Du rhum aussi, ouais. Alors, déjà, il faut savoir que quand j'en fais pour 3 ou 4 fois, sachant qu'ensuite, je la réchauffe dans un bocal assez grand, type bocal à cornichons. Je mets de l'eau chaude, du jus de citron pour les vitamines et pour la gorge, du miel pour la gorge et pour le côté antiseptique, du gingembre frais pressé pour les vitamines et aussi pour digérer tout ce que je vais boire là.
Comment tu presses ton gingembre?
Avec un pressail.
Ok.
Voilà. Je le fais plusieurs fois, je récupère les bouts qu'il y a dans le pressail et puis je represse par-dessus. Et ensuite, de toute façon, je filtre tout après, donc s'il y a des morceaux, c'est pas très grave. Ensuite, je mets du thym en feuille. Moi, j'ai la chance qu'ils viennent du jardin de mes parents, mais tout le thym, ça marche. C'est parce que c'est antiviral. Et aussi parce que quand tu le sens, ça te débouche un peu le nez, ça fait du bien. Ensuite, je mets, quand j'ai pas la flemme, de la racine de curcuma hachée menu menu ou de la poudre de curcuma quand j'ai la flemme, donc carrément. Souvent de la poudre de curcuma. ça, c'est pour le système immunitaire.
Ouais.
Et ensuite, je rajoute un nuage de poivre noir. C'est pour, en fait,
Pour
ça
le
permet de
curcuma.
mieux assimiler le curcuma. Ouais. C'est pour ça que quand dans les recettes de lait d'or, la recette de boisson indienne, il y a toujours du poivre noir avec le curcuma, parce que bah, sinon, ça sert un peu à rien.
Même quand tu cuisines avec du curcuma, il faut mettre
Ouais.
plein de poivre.
Et puis, c'est bon, le
Trop bon.
poivre noir.
L'autre jour, j'ai fait une tarte. Désolée, je t'interromps pour une anecdote hyper utile. L'autre jour, j'ai fait une tarte au poireau dans laquelle j'ai décidé de mettre du curcuma.
Ouais.
Et du coup, le mélange curcuma et poireau, ça a fait un truc vert fluo.
Oh oui.
Et ça ressemblait à la couleur de
Eh,
Shrek.
c'est une trop bonne idée pour Halloween, la tarte Shrek.
Voilà. C'était mon anecdote.
J'ai faim de poireaux
Milieu de ton
maintenant, alors que
anecdote.
c'est plus trop la saison. Oh.
Donc tu disais du curcuma, du poivre.
Oui. Du poivre et optionnel, une petite lichette de rhum, un peu comme dans le grog. L'idée, c'est de tuer le virus en lui bourrant la gueule, globalement.
Voilà. Et en même temps, toi, de te bourrer la gueule.
Et en même temps, je bois ça le soir généralement, donc je me dis, allez, ça va m'endormir
C'était à bien
lentement et sûrement.
t'endormir.
Et généralement, du coup, je laisse ça mariner une nuit pour que le thym s'imprègne bien et tout.
T'infuses?
Ouais, pour que ça infuse bien. Et ensuite, le lendemain, je filtre et je réchauffe. J'en bois pas non plus beaucoup parce que c'est quand même un peu. Enfin, il y a du jus de citron et tout, ça débouche un peu les tuyaux, on va dire. Du coup, ce que je fais, c'est que j'en prends, genre, j'en bois juste un petit peu le matin et je bois un bon verre le soir avant de me coucher. C'est un peu dégueulasse, je vous avoue, mais de un, l'odeur de cette boisson chaude, ça te débouche bien le nez. Et deux, avec le miel et le citron, ça fait instantanément du bien à la gorge. Et trois, je crois très fort que ça me file un coup de pouce. Donc, de toute façon, c'est que des bonnes choses, donc c'est pas perdu.
Ça aide au moral.
Exactement. J'ai l'impression d'agir sur ma maladie.
Tu n'es pas juste à attendre que ça passe, tu fais des choses.
Ouais, exactement. Je mélange des trucs. Voilà, c'était mon anecdote.
Pas si j'en ferais.
Bon, c'est pas très bon, mais.
Bah ouais, c'est pour ça. Au départ, je me disais, c'est que des trucs que j'aime bien, mais après, tu as dit que c'était le mélange complet n'était pas bon, donc.
Bah, si vous voulez, vous pouvez juste vous faire une infusion de thym avec du miel et du citron. C'est bon. Et c'est exactement ce que je suis en train de boire. À la tienne. À toi, pardon.
C'est une bonne transition.
Ouais.
Alors, moi, mon anecdote, c'est que je suis allée récemment aux Imaginales, qui est un festival à Épinal dédié à la littérature fantastique. J'ai assisté à une conférence sur les chasses aux sorcières,
Trop cool.
qui était animée par Marie Simon, qui est chercheuse, qui a fait notamment une thèse sur le sujet des chasses aux sorcières, et Alexis Metzinger, qui est journaliste, qui a réalisé des documentaires sur le sujet, qui est aussi auteur, qui a écrit un livre en se mettant à la place d'un magistrat qui avait accusé des sorcières. C'était hyper intéressant.
Ouais, ça a l'air.
Outre le fait que j'y suis allée juste après avoir mangé, que c'était en plein
Ça
soleil et que j'étais extrêmement fatiguée.
veut dire que c'était intéressant au point que tu ne t'es pas endormie en plein soleil, en pleine digestion.
Si un petit peu, il y a des passages, j'avoue, au bout d'un moment, je me suis dit, merde, j'ai décollé depuis 5 minutes, je sais pas de quoi il parle.
Qu'est-ce qui s'est passé, hein?
Mais entre autres, il y a eu un truc qui a été abordé et qui m'a fait cogiter. On parlait du fait que la sorcière, comme on la conçoit aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la sorcière comme elle est conçue dans l'histoire. Et il y a quelqu'un qui a dit, est-ce que ça serait pas un peu une réappropriation culturelle?
Bah oui.
Mais carrément, et j'avais jamais pensé à poser ce terme sur le fait qu'aujourd'hui, on a fait de la sorcière un personnage hyper féministe, alors que si on regarde l'histoire, ce n'est pas du tout le cas.
Non, c'est pas du tout le cas, mais je pense que c'est un peu le même phénomène qui se passe avec toutes les oppressions. C'était une insulte envers les femmes, et du coup, je pense que les femmes se la sont appropriées, parce que l'insulte faisait en plus rapport à une femme qui avait du pouvoir, comme le mot queer.
Exactement. Et ce qu'elle disait, Marie-Simon, et que j'ai noté aussi parce que c'était intéressant, c'est que aujourd'hui, du coup, la figure de la sorcière, c'est devenue une figure féminine qui s'oppose au masculin, alors que dans l'histoire, c'était plutôt le masculin qui s'est opposé au féminin. On a renversé le
Ouais,
truc.
ouais,
Voilà. C'était la petite anecdote. C'est pas vraiment une anecdote, c'est plus un point culture historique.
Gardez ça sous le coude, ça vous fera de quoi de quoi penser.
On fera un argument la prochaine fois qu'on essaye de vous vendre un magazine « Réveiller la sorcière qui est en vous ».
Le féminin sacré.
Voilà. Voilà, voilà.
Je pense que enfin, s'il y a juste un truc sacré sur Terre, c'est le félin sacré.
Et ils le savent.
Dit-elle en gratouillant la tête de son chat.
On a fait le tour.
Ben ouais, bien joué.
Bravo nous, bravo vous qui nous avez écoutés.
Bravo vous surtout.
D'ailleurs, si vous avez adoré nous écouter, vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur nos plateformes de podcast favorites.
Et vous pouvez aussi nous suivre sur tous les réseaux sociaux, enfin tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter, c'est déjà pas mal.
On n'aura jamais TikTok.
On n'est pas assez responsable pour avoir TikTok.
On remercie également Moon Hanson pour la musique.
Et Greg, notre ingé son.
N'oubliez pas de rester magique.